Bonjour et bienvenue sur le podcast Tout droit tout simple. Que vous soyez étudiant, jeune juriste ou plus expérimenté, vous êtes au bon endroit pour découvrir les métiers du droit, leurs évolutions et les innovations juridiques. Je suis Delphine Bordier, ancienne avocate et directrice juridique, aujourd'hui LegalOps, c'est-à-dire consultante en stratégie juridique et organisation. J'interviewe tous les 15 jours des praticiens du droit de tous horizons qui témoignent de leur expérience, leur parcours, leur vision et vous livrent de nombreux conseils pratiques. Soyez curieux et bonne écoute. Bonjour Inès et merci beaucoup de ta visite sur le podcast Droit tout simple aujourd'hui. Je suis super contente de t'inviter.
Bonjour Delphine. Bah écoute, moi aussi je suis particulièrement heureuse d'être là, surtout que c'est vraiment un beau podcast. Donc merci beaucoup pour cette invitation.
Je t'en prie. Est-ce que je peux te demander, c'est la petite question du début, mais déjà de te présenter.
Alors, oui, bien sûr. Je suis Inès Ami. Je suis présidente et cofondatrice de Octolo.tech, qui est une solution legal tech qui permet de dématérialiser le secrétariat général des entreprises et des associations.
D'accord. Alors, moi, je suis un peu curieuse de savoir, parce que tu es très jeune, on peut dire ton âge, mais ce n'est pas moi qui vais le dire, mais je suis curieuse de savoir comment tu t'es retrouvée à la tête d'une legal tech.
Oui, tout à fait. Bon, j'ai 27 ans.
27 ans, ok. Donc, vraiment très jeune. À la tête d'une legal tech. Quasiment à la sortie de l'université, quoi. Quel est ton parcours? Parce que c'est quand même pas si commun.
Effectivement, les gens sont quelquefois un peu étonnés par mon âge. Alors déjà, la première chose à dire, c'est que bien sûr, je suis accompagnée par des personnes qui sont plus expérimentées que moi. De toute façon, je pense que c'est la base de l'entrepreneuriat, c'est de savoir se faire accompagner. Ouais. Alors, moi, j'ai un parcours vraiment très simple. J'ai fait mes études de droit à Assas, de la L1 au Master 2. J'ai fait un Master 2 de propriété littéraire, artistique et industrielle. Et j'étais dès le départ assez intéressée par l'innovation. Pendant mes études, tous les ans, dès le départ, des stages en cabinet, en entreprise. Et il se trouve qu'en Master 1, j'ai fait ce qui devait être au départ un simple petit stage d'un mois dans une legal tech qui se lançait dans le domaine aussi de la gestion des entreprises. Et il se trouve que ce petit stage d'un mois était en fait un gros démarrage, puisque finalement j'ai travaillé pendant presque 2 ans, donc plus en stage, en CDI, hein, je tiens à préciser. Et en fait j'ai adoré, j'ai énormément découvert de choses, en particulier j'ai pu être incubée par, donc la start-up a été accompagnée par un incubateur de la BNP Paribas qui s'appelle le Y. On a aussi été à Station F qui est donc le grand accélérateur de start-up. Oui. En France et en fait ça m'a appris énormément de choses, ça m'a beaucoup donné envie d'entreprendre, mais maintenant à mon plan de départ, j'ai passé le CRFPA puis le CAPA et en janvier 2020 je suis retournée voir les investisseurs de la première start-up en leur disant que j'avais un projet entrepreneurial et je voulais leur en parler. Et en fait, ils ont été enthousiasmés, ils m'ont soutenue, ils m'ont accompagnée, ils m'ont aidée. Et voilà, et je suis là aujourd'hui, Octolo, ça fait maintenant donc presque 3 ans. Ça fait 3 ans, c'est la fête aujourd'hui.
Ouais, ça fait 3 ans qu'on existe.
Exactement. Quel meilleur anniversaire que de le passer avec toi, Delphine. et c'est comme ça que j'ai monté Octolo. En fait, c'est parti d'un principe de base assez simple. Que ce soit en entreprise ou en cabinet, j'ai constaté qu'il y avait énormément de tâches qui devaient être, qui étaient en fait une perte de temps, qui devaient être automatisées. En particulier, par exemple, dans le domaine là qui m'intéresse, le secrétariat général, une start-up qui va voir son avocat pour tenir, par exemple, ses assemblées générales, l'avocat, ça ne l'intéresse pas beaucoup parce que ça lui prend beaucoup de temps, c'est très répétitif, à moins qu'il y ait réellement des sujets juridiques tels qu'une levée de fonds, par exemple. Et du coup, il va renvoyer vers l'expert comptable. Or, les assemblées générales ont lieu de mars à juin, et l'expert comptable, il a autre chose à faire de mars à juin, parce que c'est la période d'approbation des comptes. Et en fait, comme toutes ces tâches doivent être automatisées, finalement, ça se retrouve souvent entre les mains d'un stagiaire ou d'une stagiaire. C'est pas forcément bien fait. Souvent même, on en fait l'impasse. Et dans le cas des startups, et ça, c'est ce que j'avais énormément constaté dans mon expérience entrepreneuriale, beaucoup de startups ne tiennent pas leur juridique. Et le jour où elle lève des fonds, c'est la catastrophe. Et voilà, ça a été le postulat de départ d'Octolo.
Et quand tu dis qu'elles ne tiennent pas leur juridique, ça signifie quoi?
Ça signifie que souvent, elles découvrent plus ou moins l'existence des assemblées générales. Ou elles savent que ça existe, mais elles se disent que c'est pas pressé. Et puis, quand tout d'un coup, il y a 4 ans de
Oui, ça
juridique à
devient
maîtriser,
l'urgence de. Ouais.
c'est l'urgence, surtout dans le cadre d'une levée de fonds, par exemple, où il y a énormément de travail. Je parle des startups, mais ça a été, en fait, ça a été notre, disons, notre cible de départ. On a énormément travaillé avec des startups et au fur et à mesure, on a élargi nos services pour proposer maintenant même à des grands groupes d'automatiser une partie de leur secrétariat général.
Donc Octolo, c'est quoi exactement? C'est quoi la particularité par rapport aux autres LegalTech qui apportent des services de secrétariat juridique?
Bah, j'invite tout le monde à aller faire un petit tour sur notre site octolo.tech et ils constateront tout de suite que notre logo est un peu spécial, c'est un poulpe vert.
Oui.
Et pourquoi un poulpe? Parce qu'en fait, un poulpe, c'est un animal, l'un des animaux les plus intelligents de la planète, étonnamment. Il a 8 pattes, 9 cerveaux et un seul corps. Et en fait, c'est un peu le principe de notre plateforme. On va réunir sur une unique plateforme l'ensemble des services nécessaires à la dématérialisation du secrétariat général. Le but étant de pouvoir s'adapter à tous les cas, comme le poulpe qui change de couleur, de taille, de forme, etc. Et voilà, en fait, ce qu'on fait avec Octolo, c'est de proposer, et il me semble que c'est l'une des tendances les plus importantes en ce moment de la Legal Tech, c'est qu'il va falloir, on va proposer l'ensemble des services sur une unique plateforme. Quand je dis l'ensemble des services, c'est la première chose, j'espère ne pas trop rentrer dans le détail juridique pour les éventuels auditeurs qui ne connaissent pas forcément le sujet. Mais par exemple, la première chose qu'on va faire pour une entreprise, c'est tenir la table de capitalisation et la liste des mouvements liés à l'actionnariat, c'est-à-dire savoir qui a des actions dans la société, quand il les a eues, comment il les a eues, qu'est-ce qui s'est passé avec ces actions.
Oui.
Ensuite, on va aussi tenir la liste de tous les éventuellement des conseils d'administration, des conseils de surveillance, des comités, même des CSE, c'est-à-dire les comités des salariés. Et on va organiser toutes les réunions en lien avec soit les assemblées générales pour l'actionnariat, soit les conseils et comités, sachant qu'on va avoir directement toute la liste des personnes qui sont prêtes, la prise en compte de leur droit de vote qui va permettre de calculer automatiquement les quorums, les majorités, etc. Et sur Octolo, on va automatiser les documents, on va envoyer les convocations par courrier ou par mail. On a un partenariat avec La Poste là-dessus. Ensuite, les personnes vont avoir un espace personnel pour se connecter, pour accéder aux documents, pour voter, donner procuration. Et le gestionnaire va pouvoir suivre tout ça en live. Les réunions peuvent se tenir sur place, à distance ou en hybride. Et ensuite, automatiquement, on va créer le procès-verbal, la feuille de présence, qui peuvent être éditables, etc. Et puis, après tout ça, on va proposer une data room pour stocker tous les documents, bah, ceux qu'on a créés, et puis tous les autres documents possibles, et éventuellement les partager, les signer. Voilà. Et en
D'accord.
fait, tous ces outils, c'est des outils qui sont déjà proposés par différentes startups, mais sans les mettre en lien. Et nous, notre particularité, c'est que déjà, on va assez loin dans la personnalisation et l'adaptation des services, mais surtout, on va tous les automatiser ensemble de manière à ce que le gestionnaire ait tout qui soit réuni à un seul endroit et que sur une unique plateforme, l'avocat, l'expert comptable, le juriste, le dirigeant d'entreprise, les actionnaires puissent, et même les salariés puissent communiquer, échanger et avoir accès aux données liées à l'actionnariat de l'entreprise.
Ouais, pour éviter de multiplier les outils ou alors que justement il faille créer des liens entre les différents outils existants,
C'est
c'est ça?
ça, éviter de multiplier les outils, éviter de devoir reparamétrer à chaque fois des outils différents, éviter de devoir se former sur plusieurs outils différents. Nous, c'est extrêmement simple, c'est très intuitif. C'est d'habitude, effectivement, ce que les gens aussi adorent sur notre plateforme. C'est vraiment très simple, on est guidé. Il y a un accompagnement à tout moment par nos équipes si besoin, avec un chat qui est accessible. Et en fait, c'est extrêmement fluide. Et effectivement, toutes les parties prenantes peuvent se retrouver dessus. Et on peut gérer une simple société ou un groupe ou un cabinet peut gérer plusieurs sociétés depuis un seul compte.
Alors, on l'a tous remarqué, hein, la pandémie a fait en sorte que les entreprises ont pas mal digitalisé leurs services. À ton avis, pour quelles raisons elles sont poussées à digitaliser le secrétariat juridique, hormis la pandémie, qui a eu lieu?
Alors, la première chose, c'est que déjà la loi a pas mal évolué et a permis peu à peu de digitaliser les services. C'est le cas pour d'ailleurs, c'est la base de beaucoup de créations de Legal Tech. Par exemple, au départ, c'était l'envoi de convocations par mail, qui était déjà une première chose. Ensuite, il y a eu la mise en place du vote en ligne. Ensuite, il y a eu la reconnaissance de la signature électronique. Tout ça, ça, ça. Puis ensuite, enfin, la tenue des registres en ligne. Tout ça, ça permet de... Si la loi a mis ça en place, c'est parce qu'il y avait déjà un intérêt et parce qu'on s'est rendu compte de la nécessité de simplifier la tenue du juridique des entreprises, puisque bon, c'est effectivement important, même essentiel, d'avoir cette vue, ce suivi de tout ce qui s'est passé dans l'actionnariat de l'entreprise, ce suivi surtout des décisions. Mais il ne faut pas non plus que ce soit quelque chose qui prend un temps énorme, puisque ça n'a pas non plus énormément de valeur ajoutée. Et ça, les gens s'en rendent bien compte. C'est des actions qui sont importantes, qui sont essentielles, mais qui sont extrêmement répétitives. Et du coup, les gens cherchent bien sûr à optimiser. On voit aussi que les directions juridiques, par exemple, sont de plus en plus prises par énormément de tâches. Donc, elles cherchent à optimiser. Je pense que tu iras dans mon sens. Cherchent à optimiser au maximum le travail à faire. Alors, c'est aussi un des impacts de la pandémie, mais il y a beaucoup de télétravail. Certaines personnes ont déménagé. Dans le cadre de la tenue de l'actionnariat, souvent, par exemple, pour des startups, il va y avoir des actionnaires qui sont à l'étranger, des fonds d'investissement américains, par exemple, etc. Et tout ça, ça va nécessiter de pouvoir être adaptable, pouvoir accéder aux informations facilement, et pouvoir surtout maintenir la décision au sein de l'entreprise, quoi qu'il arrive, y compris si de nouvelles crises économiques, sanitaires ou autres venaient à impacter la marge de l'entreprise.
Voilà. D'accord. Et je crois que vous avez une spécificité qui est autre, c'est que vous vous intéressez particulièrement aux bailleurs sociaux. Tu peux nous en parler un peu ?
Comme toute entreprise, ils doivent tenir leur actionnariat, leurs assemblées générales, mais déjà, ils ont quelques petites particularités légales au niveau du calcul des votes, par exemple, qu'on prend en compte. Et ils tiennent énormément de réunions, beaucoup de comités, beaucoup de commissions. Par exemple, la commission qui s'appelle les Caléoles, c'est-à-dire les commissions pour choisir les locataires. C'est des commissions qui vont se tenir tous les mois avec... les maires, les préfets, les représentants du bailleur social, etc. Et en fait, il se trouve que c'est des entreprises qui ont souvent 100 ans, par exemple, et qui ne se sont pas du tout dématérialisées. Il y a déjà, de la même manière, des lois qui sont intervenues pour permettre de dématérialiser, pour obliger à optimiser les services administratifs des bailleurs sociaux. D'ailleurs, il y a beaucoup de bailleurs sociaux qui ont dû se recentrer et se réunir pour former des entreprises plus importantes par obligation de la loi et pour centraliser leur administratif. Et avec la pandémie, ils se sont retrouvés complètement bloqués. Ils n'avaient aucun outil. Et comme c'est des entreprises où il y a aussi des personnes publiques qui participent, et de toute façon, c'est des entreprises qui, quand même, par essence, sont assez françaises, elles avaient besoin d'avoir des outils qui répondent à certaines problématiques spécifiques, à certaines normes de sécurité et qui permettent de stocker les données en France, etc. Et en fait, nous, on était vraiment l'outil tout trouvé puisqu'on leur permettait de créer n'importe quel conseil ou comité sur la plateforme sans avoir à changer d'outil, justement, d'inviter n'importe qui à se connecter vraiment très facilement où qu'il soit. Et par ailleurs, on répond aussi, bien sûr, à énormément de normes de sécurité. Toutes nos données sont stockées en France. Tous les éventuels prestataires qu'on utilise sont français, même si majoritairement, c'est développé dans l'entreprise directement. Voilà. D'accord. Et en fait, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à leur proposer nos services. Ça s'appelle Octolo Habitat. Et c'est Octolo, mais adapté aux bailleurs sociaux. Ça a été très simple de l'adapter pour eux, puisque... j'ai facilement pris en compte le droit applicable. Et on a pris contact avec un expert comptable qui est spécialiste des bailleurs sociaux depuis 30 ans et qui connaissait très bien les problématiques et les besoins et qui nous a permis du coup de développer Octolo Habitat.
D'accord. Voilà. Et alors depuis, je crois que donc, tu l'as dit tout à l'heure, donc 3 ans, donc, comment a évolué Octolo justement depuis 2020 J'imagine que vous avez grossi, qu'est-ce qui s'est passé?
Alors oui, en fait, on a commencé à 3 déjà. Aujourd'hui, on est 7 salariés. Le produit de départ, c'était vraiment janvier 2020, en mars, il y a eu la période des assemblées générales. Donc le produit de base, c'était vraiment les assemblées générales et on s'adressait énormément aux startups. Finalement, crise sanitaire oblige, on a eu bien plus que des startups. On a eu très bon cas pour commencer. Mais du coup, quand même, le produit de base, il était très centré sur les startups. C'est aussi d'ailleurs pour ça que notre solution se veut très simple et très facilement compréhensible, puisque ce n'est pas forcément des professionnels du droit au départ. Et au fur et à mesure, on a augmenter nos services, augmenter la taille de nos clients. Et effectivement, aujourd'hui, donc, on propose une plateforme qui est bien plus complète qu'en 2020, heureusement, qui continue d'être de plus en plus complète puisqu'on rajoute à chaque fois des nouvelles briques, des nouveaux services. Et puis, on a donc effectivement des clients de plus en plus importants, avec en particulier des cabinets d'avocats et des groupes de sociétés.
Bon, tu nous as un peu dit, vous étiez 3, vous êtes 7. Quels sont les profils en fait recherchés chez Octolo? Parce que j'imagine que toi, t'es juriste à la base, mais évidemment, il faut une équipe diversifiée.
Chez Octolo, aujourd'hui, on a des profils... une bonne partie, ce sont des profils tech, donc des développeurs, sachant que le CTO, donc le chef de la technologie chez Octolo, est au départ un expert en sécurité. On a aussi un développeur qui vient de l'école 42, par exemple. La petite particularité, c'est que forcément, il y a fallu les former au fur et à mesure aux spécificités du droit pour leur faire bien comprendre ce qu'ils étaient en train de développer et les besoins des clients. Ils sont devenus vraiment très forts, franchement.
Parce que c'est quand même particulier. Enfin, il faut effectivement être très bon en tech, mais il faut quand même comprendre le milieu dans lequel...
L'avantage, c'est que les développeurs aiment bien les règles et les choses qui sont carrées. Alors, le droit, ça fonctionne quand même assez bien. Même s'il y a un peu trop d'exceptions à leur goût, mais...
Oui, parce que ça, c'est beaucoup de développement, les exceptions à chaque fois. Donc ça doit moins leur plaire.
Et ensuite, bon, ils aiment bien les défis. Et justement, c'est effectivement aussi quelque chose qu'on cherche en startup, c'est les gens qui aiment les défis, qui aiment innover, qui aiment trouver des solutions. Bien sûr, la deuxième chose, et c'est peut-être même ce qu'il y a de plus difficile, c'est qu'on cherche et on a des profils qui ont une double casquette. Il faut connaître le droit, donc éventuellement forcément d'ailleurs, quasiment, une formation juridique est vraiment très appréciée. Et puis, si possible, il faut avoir, par exemple, une formation en école de commerce, donc un double diplôme. Alors, un de mes associés, par exemple, a un master à SAS en droit et a fait l'ESSEC. Mais bien sûr, on ne cherche pas que des profils comme ça. Et la problématique aujourd'hui, c'est que trouver des personnes qui ont un double diplôme et qui sont prêtes à se lancer dans une start-up avec les risques potentiels que peut inclure une start-up et les sacrifices aussi que ça peut inclure, il n'y en a pas forcément. Alors, tout le monde dans la legal tech, finalement, fait des petites adaptations. C'est-à-dire que soit on va trouver un profil juridique, soit on va trouver un profil en école de commerce et on va investir dans la formation de ces personnes. Et de toute façon, il me semble que quoi qu'il en soit, quand on commence à travailler...
Oui, on ne peut pas tout savoir.
De toute façon, il faut toujours se former et c'est réellement un état d'esprit et la première chose qu'il faut avoir, c'est vraiment une passion et une envie de découvrir.
Oui, et puis j'allais dire, même au-delà du premier emploi, il faut vraiment... la formation continue, c'est vraiment crucial. Hein, c'est... Ouais. OK. Et je crois que vous avez des problématiques aussi RSE au sein de votre projet. Est-ce que tu peux nous dire un mot là-dessus?
Alors oui, effectivement, tu es bien renseignée. Il y a une chose qui me tenait à cœur. C'est d'intégrer justement des problématiques RSE dans notre activité. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'essentiel. Tout le monde est concerné par les problèmes sociaux, sociétaux et écologiques. Et l'inclure dans le cœur de notre activité, ça me semblait vraiment important. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle on a choisi de faire d'Octolo une société à mission. Donc on a défini ensemble un certain nombre de problématiques qu'on souhaitait résoudre et intégrer dans notre raison d'être et dans nos objectifs. Alors, déjà, une petite parenthèse, ça a un premier intérêt, c'est que ça va nous permettre de conserver un petit peu, disons, notre âme de départ. C'est-à-dire que c'est aussi le fait d'avoir une raison d'être, le fait d'avoir des objectifs fixés dans nos statuts, c'est quelque chose que des éventuels investisseurs verront tout de suite. Et donc, qu'ils doivent prendre en compte dans le projet global, voilà, exactement. Et la deuxième chose, c'est que justement, on parlait tout à l'heure d'embaucher les personnes. Ça permet aussi de vérifier que les personnes sont bien alignées avec nous. D'accord. Et du coup, nos objectifs, il y en a plusieurs, il y en a 6 en fait, très exactement. La première chose, c'est qu'on souhaite créer un numérique responsable. C'est la raison pour laquelle on s'est engagé dans le cadre d'un impact environnemental diminué de notre code. Donc, on a mis en place un certain nombre de choses. Là aussi, l'un des défis de nos développeurs. La deuxième chose, c'est d'optimiser nos services pour le bas débit et l'accessibilité numérique. Au fur et à mesure, on cherche à améliorer l'accès à la plateforme, par exemple, par des personnes qui sont malvoyantes. La troisième chose, bah, ça c'est normal, on souhaite s'engager pour simplifier et fluidifier la prise de décision pour les entreprises et pour les associations, promouvoir le dialogue et la concertation. On s'engage aussi à favoriser et promouvoir au maximum l'actionnariat salarié et la parité. Et d'ailleurs, moi-même, je suis très engagée dans un collectif qui s'appelle Sista pour l'entrepreneuriat féminin. Et
D'accord.
enfin, on cherche au maximum à aider les créateurs d'entreprises. Donc, on
D'accord.
a mis en place un certain nombre, ça, c'est des objectifs généraux, et on a mis en place au fur et à mesure un certain nombre d'actions dans le cadre de ces objectifs.
Et tu peux nous donner un exemple d'action que vous menez?
Oui, bien sûr. Déjà, pour les jeunes créateurs d'entreprises, on fait des tarifs pour les aider justement à s'y retrouver.
Ça, c'est
Ça,
une
c'est un
bonne
truc de
action, oui.
base. La deuxième chose, c'est par exemple, je parlais de l'optimisation du code. L'une des grosses problématiques du secrétariat général, c'est que ça demande énormément de papier. On envoie des convocations à tout le monde en 500 papiers, etc., en 500 pages, voilà. Nous, lorsqu'on le fait sur la plateforme, au lieu de créer 500 copies d'un même document avec simplement un nom qui change, les développeurs ont mis en place un système qui fait qu'il n'y a qu'un seul document en réalité qui existe et qui est conservé sur nos serveurs, qui sont par ailleurs les serveurs les plus écologiques qui existent aujourd'hui en France.
Alors là, on va élargir un peu le sujet, mais à ton avis, quelles sont les tendances des legal tech en 2023? Alors en France, en Europe, dans le monde, enfin comme tu veux, on élargit comme tu veux, mais c'est quoi les tendances actuelles?
Alors, il me semble, après peut-être que j'ai un biais là-dessus, mais il me semble que la tendance est quand même de plus en plus à proposer les services les plus complets possibles, puisque si au départ la legal tech s'est développée avec plein de petits services différents, on voit bien que les juristes et les utilisateurs ou les avocats ou autres n'ont pas envie de passer d'un outil à un autre et ont envie d'optimiser au maximum leur temps. Donc ça, je pense que c'est la première tendance, c'est peut-être la réunion d'acteurs de la legal tech. Et la création d'outils plus complets. La deuxième chose, et je pense que c'est pas non plus une tendance qui est nouvelle, mais qui est quand même de plus en plus forte, c'est bien sûr la mise en place d'outils de travail à distance et des outils collaboratifs pour prendre en compte justement les nouveaux modes de travail, en particulier dans le cadre du télétravail. La troisième chose, je pense qu'on entend tous de plus en plus parler des enjeux environnementaux du numérique et il me semble que la legal tech devra bien les inclure dans ses développements.
J'aimerais bien avoir ton avis sur la formation justement des juristes. Est-ce que tu penses, parce qu'il y a eu le Grenelle il n'y a pas très longtemps, Grenelle 3, est-ce que tu penses que la formation des juristes, elle est adaptée aujourd'hui pour faire face aux nouvelles problématiques qui apparaissent dans les entreprises ou est-ce que tu penses qu'il y a des marges de
Il y
progrès?
a eu aussi pas mal de débats ces derniers temps sur la question du juriste augmenté. Est-ce que la
Voilà.
formation suffit? Et une espèce d'opposition qui s'est faite entre les différentes formations. Alors déjà, première chose, je pense que je suis un bon exemple, enfin j'espère, du fait qu'une simple formation juridique peut permettre de faire bien plus que simplement être un spécialiste du droit sur un point particulier. En revanche, la formation telle qu'elle existe aujourd'hui, elle nécessite énormément de curiosité de la part des étudiants qui, s'ils le souhaitent, enfin, devraient au maximum
Oui.
se former de leur côté. D'ailleurs, c'est toute l'utilité aussi de podcasts comme le tien qui permettent d'apprendre énormément de choses et de découvrir beaucoup de métiers. Je pense que les universités puisque c'est quand même l'une des formations de base en droit, les universités prennent conscience peu à peu de cette problématique. En tout cas, de mon point de vue, j'aurais énormément apprécié à l'époque mais je pense que c'est le cas pour tout le monde, avoir des bases aussi par exemple,
En
en tenue
finance.
d'entreprise, en tenue des comptes, en finance. C'est quelque chose qui peut être utile, y compris pour les personnes, par exemple, qui lancent leur cabinet ou qui travaillent dans des cabinets ou qui sont à leur compte. De ce point de vue-là, il manquait un peu de formation là-dessus. Et je regrette, alors moi je l'ai fait de moi-même et beaucoup le font, on fait des stages un peu comme ça pendant les vacances. Mais c'est vrai qu'avoir un peu de formation pratique dans les entreprises, c'est quelque chose qui manque quand même dans les formations et qui permet aux étudiants, pour certains, de comprendre aussi qu'il y a des skills qui sont nécessaires en dehors simplement des connaissances juridiques et que la personnalité de chacun et la manière d'interagir dans une entreprise comptent aussi beaucoup. Voilà. Mais effectivement, en revanche, il y a une chose que l'université ne peut pas apprendre. L'université est là pour former l'esprit, mais dans tous les cas, il faut de la curiosité et l'envie d'en savoir plus.
Est-ce que tu peux, pour finir, je sais pas, me dire un petit mot sur ce que tu as pensé de ce podcast et sur Tout droit, tout simple en général?
Tout d'abord, merci beaucoup. Merci de m'avoir proposé de venir, mais merci aussi de. Je sais que c'est énormément de travail pour toi de faire ça à côté de ton métier qui est déjà extrêmement prenant. Merci beaucoup parce que je pense que c'est d'une grande aide aussi bien pour les professionnels que pour les étudiants. Ça permet de découvrir des nouvelles choses et effectivement, c'est le meilleur moyen de remplir, de répondre à la curiosité des uns et des autres. Donc merci beaucoup, je trouve ça vraiment formidable.
Merci à toi d'être venu. Ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi sur Octolo et plus généralement sur les Legal Tech, tout ce qu'elles vont permettre dans l'avenir et puis aussi sur la formation des juristes. C'était super intéressant. Donc merci à toi. Et puis je te dis à bientôt et tu reviens quand tu veux.
À bientôt, merci beaucoup.
Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines. D'ici là, abonnez-vous au podcast pour ne rien manquer. Et si vous souhaitez partager votre expérience ou discuter d'une innovation juridique, contactez-moi directement sur le site Tout droit tout simple ou sur LinkedIn. Bonne semaine!